l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on s'interroge sur ces femmes qui s'interrogent. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome de l'imposteur, ou plutôt de l'impostrice, puisque c'est souvent au féminin qu'apparaît ce phénomène. Une femme qui ne se sent pas légitime pour occuper la fonction, le poste, le statut qu'elle occupe. C'est souvent vrai dans le monde économique, et il est bien question de ce monde aujourd'hui, puisque nous recevons un réseau économique féminin du Sud Finistère, Elle en Cornouailles. Il existe aussi au nord du Finistère avec Elle à Brest. Elle en Cornouailles organise le 13 juin une conférence sur le syndrome de l'impostrice. Nous avons donc décidé de recevoir Marine Bruno, la conférencière et dirigeante fondatrice d'Egalus. Elle a même consacré un livre au sujet, Les Légitimes, lutter contre le syndrome de l'impostrice, paru en avril. Et Albine Vilger pour présenter et représenter Elle en Cornouailles. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Albine, on va commencer par expliquer peut-être pourquoi Elle en Cornouailles a voulu organiser une conférence sur ce sujet.
On organise régulièrement des conférences qui sont ouvertes à toutes et à tous pour les conférences, en plus des ateliers spécifiques pour les adhérentes ou des apéros réseau. Et il nous a semblé, compte tenu de nos objectifs dans l'association, que une femme entrepreneur qui traite ce sujet de la confiance en soi, du syndrome de l'impostrice, et ce que nous rencontrons souvent aussi au sein de l'association, hein, des femmes qui sont en parcours de création ou en activité, sont parfois effectivement saisies de ce problème et participent à un réseau qui se met en place de manière solidaire.
En activité, ça veut dire que dans Elle en Cornouailles, il faut être assez clair, c'est pas que des entrepreneuses, c'est aussi des cadres, par exemple, c'est ça
Tout à fait, c'est même à l'origine, en 2010, quand l'association a été créée, sa signature était les femmes cadres s'activent. Et on a évolué, d'une part dans les tendances de montée en puissance de l'entrepreneuriat, et par ailleurs avec la crise sanitaire, donc nous avons repositionné notre mission depuis l'an dernier, avec cette signature, les femmes ont du talent et c'est bien l'idée d'encourager tous les talents féminins à se révéler, que ce soit sous la forme entrepreneuriale ou salariale.
Et il y a 80 adhérentes à Elle en Cornouailles, donc c'est qu'il y a une demande. Enfin...
Oui, on est très contents. La relance de l'association après 2 années de Covid en demi-teinte, c'est plutôt bien passé.
Marine Bruno, donc vous dirigez Egalus, enfin, que vous avez fondé. Quels en sont déjà les services ?
Alors, la spécificité, c'est celle de travailler globalement autour des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et donc de proposer des services de conseil aux entreprises, de formation diverses et variées auprès d'entreprises, de collectivités, etc. D'écoles aussi, ce sont des formations uniquement pour les adultes, mais donc de grandes écoles aussi. Et puis tout ce qui concerne le fait d'être conférencière, évidemment, puisqu'il faut aller porter la parole des questions d'égalité partout. Et donc pour ça, il faut imaginer à longueur de temps toutes sortes de supports et s'adapter à la demande des clients et des clientes un peu partout en France.
Demande, oui, qui commence, je pense, à prendre de l'ampleur parce que c'est devenu vraiment un sujet quasiment légal. Enfin, c'est légal d'ailleurs, l'égalité homme-femme en entreprise.
Oui, il y a une question en effet aujourd'hui de se mettre dans le droit fil de la loi pour certaines entreprises, en effet, pour les écoles et puis aussi pour les collectivités. Mais je ressens qu'au-delà de cette obligation, il y a quand même un vrai sujet de société aujourd'hui qui se pose. On le voit d'ailleurs de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et puis aussi dans les médias. Pas toujours de la bonne façon d'ailleurs, mais au moins ça veut dire que le sujet existe dans la tête de nombre de femmes et d'hommes et puis aussi de jeunes dans la société. Donc moi, je surfe sur cette vague-là, plus spécifiquement chez nous, sur notre beau territoire breton, mais un peu partout en France aussi, parce qu'en effet, il y a énormément de demandes à l'heure actuelle.
Parce qu'on pourrait se dire, finalement, bon, ça pourrait fonctionner à l'instinct, les gens pourraient se débrouiller, et en fait, c'est un sujet bien plus technique qu'il n'y paraît, l'égalité femmes-hommes.
Alors, il y a un aspect technique, et puis il y a un aspect aussi de proposer une nouvelle culture, une culture égalitaire, et malheureusement, on le voit bien que s'il y avait quelque chose de naturel qui pouvait se produire, bah déjà, moi, je ferais un autre métier. D'autre part, je ne serais pas engagée féministe depuis 20 ans, ce qui fait que le week-end, j'aurais beaucoup de temps pour traîner en pyjama chez moi, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a toujours des sujets à évoquer et de l'engagement à faire. Et puis, il y a une autre réalité qui est que si c'était si facile que ça de changer les choses, non seulement mon métier n'existerait pas, mais surtout ça ne ferait pas plus de 2000 ans, voire plus, qu'il y aurait des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, très clairement, si les choses reposent aujourd'hui, si les choses devaient aujourd'hui reposer uniquement sur le bon vouloir des tenants, et je le mets au masculin, des espaces de pouvoir et de légitimité dans notre société et dans nos sociétés globalement, je pense qu'on n'en serait pas encore très très loin. On voit bien que pour que les choses bougent, il faut créer des obligations, parfois des sanctions, et il faut apprendre à manier, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mon entreprise, à la fois, si je peux dire ça comme ça, la carotte et le bâton.
Oui, parce que j'imagine que de même qu'il y a du greenwashing dans le domaine de l'écologie chez certaines entreprises, il doit y avoir du equiwashing, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais...
Du femwashing ou du pinkwashing.
Merci.
Oui, il y en a beaucoup. Et au début, quand on monte sa boîte, on travaille beaucoup autour des questions de sa propre légitimité. Et puis, on ne peut pas forcément toujours choisir ses clients. Donc, j'ai eu conscience parfois que mon entreprise pouvait être utilisée aussi par d'autres.
Un alibi.
Bien sûr. Pour créer leur propre femwashing. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients. Et donc, comme mon engagement, il repose sur plusieurs piliers, mais l'un d'entre eux, c'est la question de l'éthique, ça me permet aussi de choisir désormais avec qui je travaille. Et donc, les entreprises avec lesquelles je travaille, je leur dis clairement que j'accepte de bosser avec elles, sans aucune prétention de ma part, mais que j'accepte de travailler avec elles parce qu'elles se questionnent de la bonne façon et pour les bonnes raisons.
Sincérité, en fait. Vous
exactement, l'authenticité.
Et vous travaillez donc sur les questions femmes-hommes, mais de plus en plus aussi, on est traversé par d'autres questions de genre plus fines, on va dire. Est-ce que vous avez un domaine d'expertise aussi dans tout ce qui concerne, je ne sais pas, les personnes non-binaires, transgenres
Toutes les questions LGBTQIA+.
Exactement,
oui.
Ouais.
Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas travailler sur les questions d'égalité femmes-hommes sans s'intéresser à ces sujets, déjà parce que travailler sur les questions d'égalité femmes-hommes, c'est travailler avant tout avec de l'humain. Ces formes, ces orientations-là de vie existent et donc on est obligé de les prendre en compte. Si on ne les prend pas en compte, finalement, on n'est pas inclusive. Or, mon travail, c'est d'inclure. Donc si mon travail, c'est d'essayer d'inclure les femmes dans des espaces dans lesquels elles n'existent que trop peu et des hommes dans des espaces professionnels dans lesquels ils n'existent que trop peu et qu'à côté de ça, je me coupe d'une partie de la population, finalement, je ne suis pas du tout dans le droit fil de ma logique professionnelle et d'engagement. Évidemment, ce sont des sujets d'actualité et quand on travaille autour des changements de culture comme ça, intellectuels, sociétales et autres, et qui sont intéressantes et pertinentes, des questions à se poser à tous les niveaux d'échelle, c'est-à-dire aussi bien macro que micro, individuel, familial, etc., on est forcément obligé de s'intéresser à tout ce qui se fait jour aujourd'hui dans notre société.
Et Albine Vilger, elle, en Cornouailles, est-ce qu'elle a été saisie de ces questions? Qu'est-ce qu'on fait des personnes transgenres, enfin des personnes non-binaires par exemple, si elles veulent adhérer à elle en Cornouailles?
On n'a pas été saisie de cette question qui est très spécifique. Et par ailleurs, Elle en Cornouailles est une association uniquement composée de bénévoles, un réseau d'entraide et de solidarité. Donc, d'une part, nos ressources ne sont que celles des cotisations, mais ça nous suffit. On n'a pas des missions d'accompagnement dédiées comme une structure peut l'avoir, soit une entreprise, c'est le cas de Marine avec Egalus, soit Entreprendre au féminin, qui, avec une équipe plus d'une dizaine de salariés, voilà, accompagne. On n'est pas une structure d'accompagnement. C'est vraiment un réseau d'entraide et de solidarité qui avons fait le constat, évidemment, nous non plus, nous n'existerions pas s'il n'y avait pas encore des freins spécifiques féminins pour l'entrepreneuriat ou pour la progression professionnelle en tant que salarié. Parce qu'on constate qu'il y a toujours, malgré tout, un plafond de verre, une inégalité salariale. Et s'agissant des temps dédiés au parcours professionnel, on connaît 80% des tâches ménagères toujours gérées par les femmes. On connaît
même les allocations. J'entendais ce matin les allocations 28% de moins sont 28% inférieures pour les femmes que pour les hommes en moyenne nationale. Tout ce qui est allocation, aide en général.
Ah bah toute la partie financière qui est celle qui ensuite conduit à disposer d'un certain pouvoir dans un espace à la fois intime, familial, de couple, parental, etc. et à la fois extérieur, Tout ça, c'est évidemment empreint de nombre d'inégalités. Quand on dit que le diable se cache dans les détails, si on regarde nos parcours de femmes à toutes, quel que soit notre âge, aujourd'hui en France, qu'on soit né en France ou pas, à partir du moment où on est sur le territoire français, on subit des inégalités dans tous les pans de notre vie, des plus intimes aux plus visibles, à longueur de temps. C'est pour ça que quand on travaille sur les questions d'égalité femmes-hommes comme moi, on est forcément très intéressé d'aller rencontrer des réseaux et d'intégrer des réseaux comme Elle en Cornouailles, parce que Elle en Cornouailles travaille sur un prisme spécifique. Et comme il faut s'attaquer à toutes les inégalités un peu partout, bah il faut aller rencontrer tout le monde et faire du lien. Et au final, avec cette sororité là qu'on développe, ces échanges-là, bah on se montre mutuellement des choses sur lesquelles il reste encore, malheureusement, beaucoup de travail. Je dis malheureusement, alors que moi, ça me permet de gagner ma vie. Hein. Mais je le redis, je serais ravie le jour où il n'y aura plus d'inégalités et où je pourrais aller faire autre chose.
Vous vous reconvertirez.
Sans problème.
Voilà, et vous n'aurez pas le syndrome de l'impostrice, justement. Alors, ce syndrome de l'imposteur, au masculin en tout cas, on en entend parler depuis quelques années. De quand est-ce qu'il date et puis quand est-ce qu'il s'est féminisé?
Au départ, en fait, il était féminin. Au départ, c'est un concept qui est trouvé par deux Américaines, deux psychologues. Donc, ce sont des femmes en 1978 et concernant des femmes, des étudiantes en l'occurrence. Et très rapidement, bah, comme souvent, en fait, leur découverte leur a été retirée, le concept a été dévoyé et il a été traduit dans notre magnifique langue égalitaire française, évidemment uniquement au masculin. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on a quelques personnes qui se revendiquent d'être spécialistes du sujet, qui écrivent quasiment tous les ans, sont presque des marronniers, des livres sur le syndrome de l'imposteur, qui vont regarder par tous les prismes possibles et imaginables. Sauf que sur 200 pages de livres, ils vont faire une demi-page, voire juste un petit paragraphe sur le syndrome de l'imposteur au féminin. Rien que cette expression-là, moi, elle me fait rire. C'est quand on n'arrive déjà pas à oser féminiser les termes, je ne vois pas comment on va pouvoir parler des choses. Donc en gros, le syndrome de l'impostrice et de l'imposteur, il existe depuis 1978. Et le syndrome de l'impostrice, ensuite, il a connu une invisibilisation complète jusqu'au 11 avril 2023, date à laquelle mon livre est sorti. Là aussi, je le dis sans aucune prétention, avant d'écrire ce livre, pendant un an et demi, j'ai mis des alertes sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec ce hashtag-là, syndrome de l'impostrice. Je n'ai jamais eu aucune alerte.
Ah oui.
Et c'est ce qui m'a interpellée.
Ça n'a pas pris, c'est ça que vous voulez dire.
Non, ce que je veux dire, c'est que personne n'écrivait syndrome de l'impostrice. Mmh. Personne. C'est quand même fort dommage.
Qu'est-ce que c'est alors d'écrire, bon, je l'ai un peu décrit en introduction, mais on a besoin de rentrer un petit peu dans la définition.
Alors ça se passe en trois temps, le syndrome de l'impostrice. Déjà, je ne vais pas du tout le définir par rapport au syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, comme souvent dans la société, on dit que la norme, en gros, c'est le masculin. Et donc, finalement, on va trouver des spécificités chez les femmes. Comme, par exemple, dans les essais cliniques, médicaux, où on va considérer que le corps normal, c'est le corps de l'homme. Et le corps de la femme, ce sera le corps spécifique. Donc, vraiment, moi, je mets de côté là, le syndrome de l'imposteur. Pas pour invisibiliser les hommes, mais pour considérer que pour une fois, on va parler uniquement des femmes. Donc le syndrome de l'impostrice, il existe en trois temps. D'abord, avant de faire quelque chose, quand on va avoir une opportunité, par exemple, eh bien, on va questionner sa légitimité, toujours de façon négative, et en se disant « je ne suis pas sûre d'être capable, je n'ai pas ce qu'il faut ». On va regarder son parcours uniquement par le prisme de nos manques. C'est-à-dire, je n'ai pas tel diplôme, je n'ai pas telle expérience, notamment en se comparant à d'autres. Et puis finalement, si on arrive à dépasser ça, qui est le premier espace du syndrome de l'impostrice, et qu'on va faire les choses, accepter un poste ou autre, bah, dans le temps où on fait les choses, c'est la difficulté à reconnaître qu'on est bien dans ce qu'on fait, qu'on est à la bonne place. Quand bien même on a des retours, une validation par l'extérieur qui vient nous dire que ce qu'on fait c'est bien, nous on va pas pouvoir se le reconnaître dans le temps où on est. Et à longueur de temps, on va vivre dans le doute, on va vivre dans l'angoisse qu'à un moment donné, quelqu'un se rende compte qu'on n'est pas légitime à la place dans laquelle on est, donc qu'on est une réelle impostrice. Et la dernière étape, et pas des moindres, finalement c'est celle qui va englober les deux premières, c'est une fois qu'on a terminé ça, eh bien on va pas pouvoir se reconnaître, se donner les lauriers de sa propre réussite. Donc finalement, peut-être que les autres vont nous dire « c'est génial, ce que tu as fait, c'est très intéressant ». Et nous, on va se dire, on va minimiser et on va relativiser, c'est vraiment les deux pans habituels, les deux mécanismes habituels. Et on va se dire bah, « finalement, si je l'ai fait, c'est que c'était peut-être pas si compliqué que ça, je m'en suis fait un monde, mais en fait, c'était rien ». Et même quand les autres peuvent nous dire parfois « moi, je n'aurais pas été capable de le faire, c'est vraiment bien ce que tu as fait », on va aussi minimiser, avoir du mal à reconnaître, à accepter ce compliment, on va dire « oh oui, tu sais, c'était pas grand-chose » ou « oh, c'est très gentil ». Dernier élément, on va aussi beaucoup remercier ses proches. C'est un peu le syndrome des Oscars ou de ce collectif d'agresseurs qui se passe actuellement, comment ça s'appelle, à Cannes, je crois, où globalement, on va remercier son papa et sa maman. Et nous, les femmes, dans des relations hétérosexuelles, on va beaucoup remercier monsieur, quand il y en a un, en disant « c'est parce que j'ai un mari formidable qui limite m'a autorisée à faire les choses. » Et vous savez, il m'aide beaucoup. Et finalement, ça fait lien avec ce que disait Albine, c'est la question de la charge mentale. C'est-à-dire que les femmes qui veulent faire quelque chose, elles ont aussi un syndrome de l'impostrice pour beaucoup, non seulement dans la vie professionnelle, mais dans les autres pans de leur vie, en tant que mère, en tant que compagne, en tant qu'amie, etc. C'est vraiment ce que je voulais montrer aussi dans le livre, c'est que c'est pas seulement quelque chose qui existe au plan professionnel. Et donc, la relativisation de minimisation va s'accompagner toujours de valider les autres. Mmh. Voilà. C'est grâce à mon conjoint. Ben non, c'est grâce à toi, c'est toi qui as travaillé.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même des profils psychologiques pour ressentir ce syndrome de l'impostrice ? Est-ce que c'est vraiment social, enfin sociétal ?
Alors, c'était mon hypothèse avant d'écrire ce livre, parce que j'avais vraiment envie de sortir d'une réponse qui serait purement individuelle, avec le mantra en gros de « aide-toi et puis ça va bien se passer ». Si ton poste ne te plaît pas, t'as qu'à te barrer. Si c'était si facile que ça, ce serait pas le cas. Et là aussi, dans une démarche d'inclusion, si on prend des profils, les profils de certaines femmes qui sont vraiment accablées par des problématiques sociales et sociétales spécifiques, je prends l'exemple entre guillemets, c'est Sabine, elle a 52 ans, elle travaille en usine, elle fait les 3-8 à 50 km de chez elle. Elle a 3 enfants, elle est divorcée. Son ex-conjoint, c'est Jean-Michel J'assume pas, qui lui a pas versé la pension alimentaire depuis 2008. Je veux dire, globalement, elle aimerait bien peut-être changer de vie professionnelle. Peut-être qu'elle se rend compte elle-même que ça va pas. Mais comment peut-elle faire pour sortir de cette ornière ? Donc finalement, changer de vie et pouvoir utiliser les mantras qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver dans le développement personnel, etc., ça implique d'avoir déjà une certaine forme de privilège social, y compris quand on est une femme. Et pour certaines femmes qui n'ont pas tous ces privilèges-là, globalement, elles vont forcément être très engluées dans des problématiques sociales. Donc pour moi, la réponse, la problématique chez les hommes peut être très individuelle, ok, mais chez les femmes, elle est à la fois individuelle, mais avant tout sociétale, et en lien avec les inégalités que nous, en tant que femmes, spécifiquement, nous subissons. Donc si la problématique est sociale, la réponse doit être globale, systémique, et elle doit être celle, à mon sens, d'un nouveau, si c'est possible, projet de société qui va permettre aux femmes aussi de se sentir plus légitimes. L'autre élément, il est quand même aussi éducatif. C'est-à-dire que nous, on est moins éduqués, on est moins construites pour se sentir légitimes dans la prise de parole, dans la prise de place dans l'espace. Vous voyez bien, Edith Marie-Jules, elle a fait des études sur la place qu'ont les filles dans l'espace à l'école, dans la cour d'école, par exemple. On voit bien que les filles, elles sont sur les côtés. Donc finalement, nous, on va intérioriser, dès qu'on est toute petite, le fait que notre légitimité ou notre place, elles doivent être, par principe, moindres que le groupe social qui représente la norme, et que sont les hommes.
Mais Albine Vilger, elle encore noire, c'est quand même un réseau de femmes, soit cadres, soit qui entreprennent. On pourrait se dire de femmes leaders, donc on pourrait se dire elles sont quand même moins exposées à ce syndrome de l'impostrice.
J'ai presque envie de dire qu'elles le sont tout autant, et voire parfois plus. On est sur une logique de réseau et d'entraide, je le disais, pour que des femmes puissent justement se sentir bien dans un espace, évoluer avec leurs homologues qui sont dans des situations similaires. C'est-à-dire que créer son entreprise, c'est une aventure. Et les femmes sont en difficulté par ce manque de confiance. Marine très bien exprimé, tous les processus qui conduisent à une hésitation. Donc, il y a des freins spécifiques à l'entrepreneuriat. Le fait d'échanger avec des homologues pour se rendre compte qu'on se pose les mêmes questions totalement idiotes parfois.
Ah oui, par exemple.
Par exemple, exactement ça. Est-ce que je vais être capable ? Est-ce que finalement...
Est-ce que je suis assez bien ? Voilà. Est-ce que je suis suffisante ?
Et voilà, exactement. Et qu'il y a effectivement un frein à la parole, à la prise de parole, qui, lorsque l'on évolue dans un milieu, une réunion, une rencontre, quelle qu'elle soit, avec d'autres femmes, se libère un petit peu. Le fait de prendre en compte la spécificité du parcours féminin, Et on s'adresse, alors certes, à des femmes cadres ou entrepreneurs, mais aussi à toutes celles qui aspirent à l'être, qui ne le sont pas encore, et notamment à cette question typiquement féminine parfois de la mobilité professionnelle du conjoint, avec un T sans E dans la plupart des cas, et la femme suit. Ça reste encore un modèle majoritaire, bien évidemment.
La femme suit son mari et pas l'inverse, quoi.
Mmh. Alors, ça, je ne veux pas non plus avoir l'air de dire vrai, que c'est à 100%, mais ouais, c'est quand même, et le Finistère étant un bassin de vie et d'emploi qui n'est pas de passage mais de destination, donc les opportunités sont un peu moins nombreuses, et beaucoup de femmes s'organisent également pour créer leur propre activité, ce qui correspond à une tendance du modèle économique d'organisation du travail, quoi qu'il en soit, assez prégnante, de plus en plus d'expertise. Donc, on a de plus en plus besoin au niveau des entreprises de faire appel à des experts. On ne peut pas tout internaliser, donc tant mieux, c'est une opportunité. Mais souvent, effectivement, les femmes créent leur activité entrepreneuriale pour créer leur propre travail, finalement. Et elles se posent des tas de questions sur leur légitimité et sur la capacité à avoir du réseau pour le faire, puisqu'elles viennent d'arriver sur un territoire nouveau. Donc, c'est un accueil solidaire, chaleureux, convivial, autour d'apéritifs mensuels, autour d'ateliers. Là encore, chacune a un talent. La première chose qu'on fait, c'est de le faire connaître, de le rendre visible, dans un contexte où il va rendre service à d'autres. Et les ateliers sont toujours animés par des adhérentes qui ont leurs compétences, leur expertise, leurs connaissances, qui vont les partager avec d'autres adhérentes.
Et qui ne se sentent aussi pas illégitimes, pour le coup.
Exactement, mais c'est surtout que ça permet de monter en compétences, parce qu'on ne peut pas tout savoir, surtout dans la fonction entrepreneuriale, bien évidemment. Voilà, c'est un réseau vraiment de partage de manière conviviale, mais efficace aussi, on l'espère.
Oui, Marine Bruno, à part les réseaux comme Elle Encore Noire, qu'est-ce qu'il faut pour lutter, voire éliminer ce syndrome de l'impostrice?
Et il faut une refonte totale, tout simplement, de notre société, et notamment de la façon dont on va élever les filles et les garçons de façon encore aujourd'hui très genrée. Il faut absolument qu'on puisse sortir de ça, parce que les enfants sont de gros consommateurs de stéréotypes qu'ils vont intérioriser extrêmement rapidement, de façon parfois très claire et parfois très insidieuse aussi. Et quand je dis ça, je ne veux absolument pas taper sur les parents, parce que les parents, ils font ce qu'ils peuvent globalement, et quand bien même ils vont de fait transmettre énormément de stéréotypes à leurs enfants, c'est pas forcément leur choix initialement, juste ils font ce qu'ils peuvent. Donc il faut qu'on puisse accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants par rapport à ça, pour détricoter leurs propres stéréotypes, et puis pour pouvoir proposer ensuite autre chose aux enfants. Et puis pour les adultes, comme certainement nos auditeurs et auditrices, et puis vous et moi autour de la table là cet après-midi, bah, globalement nous on peut pas se rééduquer. En revanche, on peut détricoter certaines choses pour se rendre compte que ces stéréotypes type-là, ils ont un impact réel sur nos vies, en tant que femmes, en tant qu'hommes. C'est pas le sujet là aujourd'hui, mais évidemment, les stéréotypes viennent aussi imposer des choses négatives aux hommes, il n'y a pas de question. Maintenant, quand on regarde purement, typiquement, le syndrome d'imposture, on voit que les hommes, toutes les études nous disent que les hommes, ils sont 1 sur 2, donc 50% dans leur vie, à connaître au moins une fois le syndrome de l'imposteur.
Ce qui paraît beaucoup, déjà.
Ce qui paraît beaucoup, mais les femmes, c'est 70%. Donc c'est pour ça que ça dépasse le fait d'être cadre.
Il y en a quand même 30% qui ne le connaîtront pas.
Oui, c'est absolument. Mais les 70% qui le connaîtront, elles le connaîtront en plus grand nombre de fois dans leur vie que les hommes, et ça va durer plus longtemps. C'est pour ça que pour moi, il y a un vrai sujet de société derrière tout ça. C'est-à-dire que qu'une problématique, elle existe et qu'elle soit à peu près mixte, bon, bah, on peut considérer que le problème de fond, c'est la problématique en soi, donc il faut accompagner uniquement les individus. Mais quand on voit, et c'est mon rôle aujourd'hui, c'est mon travail, de regarder les choses avec les lunettes du genre, s'il y a une différence entre femme et homme aussi prégnante que celle-ci, là, dans le cadre du syndrome d'imposture, ça veut dire qu'il faut des réponses différentes pour les femmes et les hommes. Et ce que j'apprécie dans des espaces comme Elle en Cornouaille, par exemple, c'est la non-mixité, qui aujourd'hui fait polémique. Alors rassurons-nous, elle ne fait polémique que quand il s'agit de femmes qui se retrouvent entre elles. Parce que nous avons dans la société actuellement nombre d'espaces qui sont ce qu'on appelle chez nous, enfin entre nous, des boys clubs, et ça ne choque personne. D'ailleurs, moi, quand je vais dans le codir d'une entreprise où il y a uniquement des hommes, et que je fais la remarque que je suis la seule femme là autour de la table, la majeure partie du temps, on me dit « Non, il y a une femme aussi, Gisèle, elle va nous apporter le café tout à l'heure. » Oui, sauf que Gisèle, elle ne prend pas les décisions. Et en fait, ils ont tellement l'habitude d'être entre eux qu'ils n'ont même pas vu qu'il n'y avait pas de femme. Nous, en tant que femmes, quand on se retrouve entre nous, et je le connais régulièrement quand je partage des tables rondes avec des femmes, quand on n'est qu'entre femmes, il y en aura toujours une qui va dire « C'est un peu bizarre quand même, il n'y a pas d'homme. » Donc, ça montre bien que la norme, c'est la place du masculin partout. Et nous, quand on se retrouve entre femmes, bah, ça peut faire peur parfois, y compris à des femmes qui vont se demander ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait la révolution ? Est-ce qu'on n'est pas, avec nos chaudrons de sorcières, à faire je ne sais trop quoi ? Alors qu'en fait, on fait la même chose que les hommes. C'est-à-dire, on discute et on construit un monde.
En tout cas, la conférence qui est proposée par Elle en Cornouailles le 13 juin à 19h, c'est à l'espace associatif de Quimper-Cornouailles. Elle sera ouverte à tous et toutes. Donc, et merci à toutes les deux. On retrouvera Elle en Cornouailles très bientôt.
Oui, merci.
Merci à vous deux.